France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Benoît, ravi d'accueillir aujourd'hui un pur descendant de Molière qui, depuis bientôt 40 ans, avec ses deux complices des Inconnus, nous fait rire sur nous-mêmes, sur la société, sur notre époque. Didier Bourdon, acteur, humoriste, mais aussi réalisateur de 7 ans de mariage, où des trois frères sort un disque de chansons. Une occasion rêvée de l'inviter à ce micro pour évoquer sa vie et son œuvre. Didier Bourdon à mes côtés dans quelques minutes. Et puis, dans cette langueur déjà estivale, si vous êtes près d'une rivière qui sommeille, je crois qu'il est temps de préparer vos canapés. La pêche.
Près du grand chemin de Valage, tous les bateaux vont doucement. Dans un berceau de verre feuillage, cache un petit restaurant. Les rambaudes, les pommes frites, les gaufres et les lilas blancs, les bluets et les marguerites prennent rendez-vous tous les bancs. Allez-y donc, qui vous empêche? C'est à deux pas tout près d'ici. Ça porte un nom, ici l'on pêche. Vous y pêcherez aussi. La patronne est une amoureuse. Le patron est un amoureux. Le vin est bon, l'auberge est ruse. Et les repas sont plantureux. Dans les massifs, partout fredonnent des mots d'amour et des chansons. Et tous les baisers qu'on se donne ne sont pas mis sur l'addition. Allez-y donc, qui vous empêche? C'est à deux pas, tout près d'ici. Ça porte un nom, ici l'on pêche. C'est là qu'un grand jour de ma vie, j'ai rencontré sur mon chemin celle qui devint ma folie, et je l'ai prise par la main. Elle avait de belles manières, je l'ai suivie sans sourciller. Si elle est ma prisonnière, je suis aussi son prisonnier, son prisonnier. Allez-y donc, qui vous empêche? Je suis bien sûr que vous direz, apporte un nom, ici l'on pêche. Et comme moi, vous pêcherez.
Ah, qu'il est beau ce succès de 1934, ici l'on pêche, par Jean Tranchant, un peu trop oublié. Il est à la fois auteur, compositeur, interprète, et c'est vraiment l'un des rénovateurs de la chanson française de l'époque, à côté de Charles Trenet.
Thank you.
La fantaisie virtuose et humoristique, c'est un genre en soi, un sous-genre de la musique de genre, très bien illustré par cette pièce intitulée Le Canari avec au violon Florian Zabak, l'orchestre Alriquet, un enregistrement de 1951.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et rien qu'hier soir, pour le plaisir, j'ai revu le film Les Trois Frères, Le Retour, sorti en 2014. Un vrai petit chef-d'œuvre comique joué par les inconnus dans le rôle de trois frères fauchés. Je suis donc heureux de recevoir l'un des trois, par ailleurs acteur de très nombreux films, réalisateur de petits bijoux comme 7 ans de mariage. Il vient en plus de sortir un album de chansons intitulé Le Bourdon. Et c'est bien naturel puisqu'il s'agit de Didier Bourdon.
J'aurais pu tout aussi bien vous chanter un opéra de Verdi façon Pavarotti, être inspiré, savoir trouver les mots comme Victor Hugo. Vous m'avez dit non, ne complique pas, fais simple, on t'en voudra pas, juste un sol, un do et un mi. Trois accords pour une mélodie,
ça suffit.
Un je t'aime, un tout petit I love you baby, pour faire rêver les filles jalouses et jolies. Un sol, un do et un mi. Trois accords, une mélodie. J'aurais pu faire l'artiste un peu bizarre, tout seul à la guitare façon Django Reinhardt, ou m'inventer des trucs hyper balèzes dirigés par Pierre Boulez. Vous m'avez dit ces gars-là connaît pas, un conseil oublie tout ça, juste un sol, un do et un mi. Trois accords pour une mélodie,
ça suffit.
Un je t'aime, un tout petit I love you baby, pour faire rêver les filles jalouses et jolies. Un sol, un do et un mi. Trois accords, une mélodie. Je t'ai dit tout bas dans tes bras, le hasard n'existe pas. Citant Nietzsche et Spinoza, et quand t'as voulu baisser les lumières, je t'ai parlé d'Heidegger. Tu m'as dit pour être heureux dans la vie, oublie ta philosophie, juste un seul, un do et un mi. Trois accords pour une mélodie, un je t'aime, un tout petit I love you baby, pour faire rêver les filles jalouses et jolies. Un sol, un do et un mi. Trois accords, une mélodie. Un sol, un do et un mi. Trois accords pour une mélodie, ça suffit. Un je t'aime, un tout I love you baby, pour faire rêver les filles jalouses et jolies.
Bonjour Didier Bourdon.
Bonjour.
Je me suis dit vraiment que alors, cette chanson avait toute sa place sur France Musique pour plein de raisons. D'abord parce qu'elle parle justement de do, sol, mi et de toutes les notes de la musique. Vous y parlez même de Pierre Boulez.
Oui, ça fait un petit clin d'œil à Pierre Boulez.
Donc vous m'avez dit que vous possédiez même l'intégrale des œuvres de Webern.
Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que j'aime bien Webern et je trouve que Pierre Boulez et Webern, et une vraie, de toute façon, il était passionné de Webern.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui.
Après, les mises en scène de Wagner, je suis un peu moins.
Enfin, vous, c'est des choses qui vous intéressent, tout ça. Hein,
ah, la musique, oui, la musique classique m'a toujours suivi, toujours, et ouais. Pas que la musique classique, hein, bien évidemment. Alors là, je découvre aujourd'hui des compositeurs un peu différents. Par exemple, Heindel, je connaissais un petit peu. Je sais que c'est mon père m'avait fait découvrir le Fireworks, comme on dit, mais il y a tellement de choses
tellement
différentes,
de
magnifiques.
Oh là là. En tout cas, ce qui m'a frappé, Didier Bourdon, dans ce disque, je ne sais pas si on dit encore un album, enfin ce CD de de vos chansons qui vient de paraître, c'est que finalement, il y a presque la moitié des chansons qui sont des chansons sur la chanson. Que ce soit la première, ou parler, bon, avec son titre un peu provoquant, un sol, un do, un mi, l'art mineur, etc.
Ah, en tout cas, il y a des références, oui, c'est voilà, vrai. Oui, c'est vrai, oui.
Vous tiens,
c'est
la première.
Ah oui? Moi, personne m'avait fait la remarque. C'est très juste.
Voilà, c'est un disque en forme de réflexion sur qu'est-ce que c'est que la chanson, qu'est-ce que c'est qu'être un artiste aussi.
Oui, alors c'est très très juste et ça m'interpelle parce qu'en fait la chanson me plaît aussi beaucoup par rapport à l'écriture et c'est vrai que la chanson permet de renouer un petit peu avec la poésie que j'aime beaucoup. Ouais. Alors c'est un autre travail, c'est pas du tout de la poésie pure, mais je crois que c'est ce que j'aime aussi dans cette écriture de chanson, c'est de renouer avec les allitérations, les rimes, les. Ouais.
Et vous l'avez fait comment? Alors, par exemple, ce titre qu'on vient d'entendre, ça s'est passé où, avec qui,
Alors, celui-là, je sais que je l'avais trouvé à la guitare pour, notamment, un film, la suite harmonique. Et après, c'est devenu une chanson. Une chanson qu'on peut décliner d'ailleurs de manière beaucoup plus douce.
Avec les musiciens, donc votre
alors,
femme.
Pour les musiciens, ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment, une équipe qui me suit depuis longtemps. Alors, soit ils sont instrumentistes, soit ils vont chercher des instrumentistes pour poser les parties de guitare ou de percu. Et après, pour les chœurs, oui, c'est ma femme qui les a fait parce que j'ai la chance de.
Elle fait les chœurs avec toute
seule. Elle chante très bien. Elle chante très bien. Je suis même un peu intimidé parfois. C'est une chanteuse de jazz en plus qui pousse très bien la voix et qui a participé à l'album.
Séances d'enregistrement, c'était amusant, agréable, difficile.
Non, plutôt très très agréable. Vraiment, ouais. C'est très agréable. C'est très fatigant parce qu'en fait, on se rend pas compte. Mais moi, c'est passionnant d'être devant un micro, de réécouter. Et les fins de journée, je rentrais chez moi un peu lessivé. Après, ce qui est toujours moins agréable, c'est comme pour le cinéma, c'est le montage. Parfois, on est déçu. En fait, on n'est pas objectif. Puis après, on revient. Voilà. Ouais. Bon. Voilà.
En tout cas, voilà, Didier Bourdon, chanteur, c'est le programme du jour, si j'ose dire, même si c'est pas la première fois qu'on vous découvre comme chanteur, on a l'impression que ça devient plus important aujourd'hui, peut-être dans votre vie.
Les chansons des inconnus, j'y mettais tout mon cœur aussi bien évidemment.
Et justement, on va remonter un peu le temps avec vous avant de revenir tout à l'heure à cet album, et on va remonter le temps avec une chanson qui, je crois, vous rappelle votre tendre enfance, on peut dire, puisqu'elle date de 1972 et vous étiez encore quand même très petit.
Je suis devant un mur blanc, mais je sais que tu es présent, alors fais-moi un signe, apparais, je t'attends. Je ne te demande rien, rien qu'un seul geste de la main, alors fais-moi un signe, montre-moi le chemin. Dis-moi seulement, lève-toi, et j'irai où tu me diras, les pieds nus dans la neige. Fais-moi un signe, fais-moi un signe, fais-moi un signe. Devant ce mur blanc de chaux, de tes yeux azur indigo, allons, fais-moi un signe, fais couler un ruisseau. Écris ton nom noir sur blanc, de ce bout de charbon brûlant, alors fais-moi un signe, je suis prêt maintenant. Ça restera entre nous, mais je n'aurai plus jamais froid, les pieds nus dans la neige. Fais-moi un signe, fais-moi un signe, fais-moi un signe, fais-moi un signe.
Que tu
fais-moi un signe,
Jésus,
fais-moi un signe, fais-moi un signe.
Jesus.
vous posiez vraiment ce genre de questions à 12 ans, Didier Bourdon, qu'est-ce que c'est que la vie des Jésus, Krishna, etc.
Oui, déjà, certainement. Ouais. Ouais. Non, parce que j'adorais, j'ai bien beaucoup aimé cette chanson, mais surtout, elle me rappelait une chanson qui avait fait un succès international, c'est My Sweet Lord de George Harrison. En fait, il imite beaucoup.
Ah oui, d'ailleurs, c'est Gérard Palapra, hein, il faut dire, chanteur français né en 1950, mort en 2017, qui a fait un grand tube avec cette chanson.
Cette chanson-là, oui, il y a un petit côté un peu... pas religieux, mais disons...
Oui, mystique.
Mystique, voilà mystique, c'est le mot. Parce que ce que j'aime bien, c'est qu'il mélange un petit peu les religions. Et par les temps qui courent, c'est pas mal de montrer que toutes les religions sont dignes d'intérêt et puis de partager avec l'autre.
J'ai cru d'ailleurs comprendre que la religion n'était pas négligeable dans votre éducation, dans votre famille. Hein.
Alors oui, moi c'est très compliqué. Parce que mon père était diacre et puis bon, voilà. On ne peut pas rentrer dans tous les détails de ma famille, mais enfin, il y a un peu de tout. Même aujourd'hui, alors mes enfants, ils ont tout, je crois, toutes les religions mélangées. Et je suis tout à fait pour ça d'ailleurs. Et les inconnus déjà aussi, on était vraiment un trio qui venait d'horizons différents, voilà.
Voilà, mais vous, c'était quand même une éducation, on dirait bien catholique. Hein.
Catholique, oui, mais pieds noirs, donc pieds aussi noirs. Avec une grand-mère qui avait des fêtes plutôt juives, et puis aussi d'un autre côté libanais, enfin bon, c'est assez compliqué.
Voilà, et vous faites partie donc effectivement de ceux qu'on appelait quand j'étais petit, puisqu'on a à peu près le même âge, les rapatriés.
Oui, tout à fait, c'est ça. Exactement, oui. On est en 62, j'ai très peu de souvenirs, j'étais tout petit, mais voilà, je disais dans une émission que je me rends compte aujourd'hui, j'ai toujours pas l'âge de ma grand-mère quand elle est venue en France, enfin en métropole. Ouais. Et j'imagine que ça a dû être un déchirement très fort, mais elle n'en a jamais parlé, c'est une femme courageuse. C'est vrai qu'à 66 ans, quitter son pays, parce que je crois que l'Algérie est un pays bien magnifique. Voilà.
Bon. Et après, donc, vous avez, avec votre famille, habité divers endroits en France, hein, en métropole. Et finalement, vous avez décidé de devenir artiste, de faire du théâtre. Alors, vous étiez plutôt un bon élève, promis à des études classiques, au moins par votre famille, peut-être
j'avais un frère qui a 2 ans de plus que moi, qui était vraiment là.
Très brillant.
Voilà, très brillant. Un peu le bûcheur et tout. Et donc, mon père me disait, il faut suivre. Puis moi, ça me plaisait bien aussi d'avoir de bonnes notes, parce que j'aimais bien les études, hein. J'aime bien briller. J'aime bien ça. C'est le côté un peu déjà comédien. Et après, j'ai fait du théâtre, mais mon père m'a dit voilà, il faut que tu passes brillamment le bac et après tu feras ce que tu veux. Il fallait rentrer soit à la rue Blanche ou au conservatoire. Je suis rentré d'abord à la rue Blanche et après au conservatoire, il m'a laissé tranquille.
Vous avez donc bien réussi l'opération, on peut dire.
Oui.
Il paraît que très jeune aussi, vous aviez un programme politique ou je sais pas quoi, qui s'appelait le bourdonnisme.
Non, le bourdonnisme, oui. Alors, c'est vrai, ça c'était au lycée, c'était en 5e ou 4e à Mulhouse. C'est-à-dire, j'ai toujours été très. Ah oui, c'est vrai, encore aujourd'hui, passionné par la Révolution française.
Ah oui.
Et là, s'il y a des bourdons dans la Révolution, la vraie Révolution, qui n'ont pas été très brillants, d'ailleurs, il y en a deux. Mais là, oui, c'était ça, c'est ce côté révolutionnaire, ce côté citoyen, ce côté... J'avais fait un petit groupe, après je m'en souviens plus très bien. Mais c'était parce qu'on était passionné d'histoire, on avait un prof formidable. Et c'est vrai que la Révolution a duré très peu de temps, somme toute, hein, vraiment. Et avec tous ces rebondissements sanglants, hein, mais quand on est enfant, on passe au-dessus de ça, c'est 1500 impurs à Brève.
Au conservatoire, vous avez eu un professeur qui est un grand homme du théâtre, François Chaumette, qui aurait bien aimé que vous entriez à la Comédie Française.
Alors, il n'était pas prof, mais il m'avait vu au conservatoire et il voulait que je rentre au français. Je me souviens très bien dans sa loge à la Comédie Française. Et en fait, j'ai décliné. Mais il faut bien dire une chose. Hein, c'est pas la Comédie Française aujourd'hui, c'est une Comédie Française qui était vraiment en crise.
Ah oui. Vous préférez celle d'aujourd'hui?
Ah oui.
Ah oui, je sais pas.
Ah oui, oui. Ah oui, non. Ah oui. Ah oui, aujourd'hui, elle est formidable. En plus, il y a des spectacles. Et en plus, aujourd'hui, les acteurs, il y a Benjamin Laverne qui a fait pas mal de promos, il y a Paul Deliès, ils ont le droit de faire des choses
à
l'époque, on n'avait pas le droit du tout.
C'est ça.
Donc, c'était quand même un peu un risque. Et puis, en plus, plein de gens partaient, Huster, Berry, parce qu'il y avait une ambiance un peu délétère. Et bon, ben voilà, après, ça a été mieux, mais...
Et donc, vous êtes entré, dans le métier, plutôt par le biais du comique. Et on va écouter tout de suite un petit document que j'ai retrouvé. Alors là, c'est vraiment à vos tout débuts, en tout cas à vos tout débuts publics, à l'époque du Petit Théâtre de Bouvard.
Bien, je vous réunis donc pour la réunion de la MJC, une réunion annuelle que l'on organise tous les ans, au bout de 12 mois de travail. C'est pour faire un bilan de la MJC de notre commune. Alors, je vais faire un tour de table. L'atelier poterie, Francis, quel est ton bilan de cette année?
Eh bien, Francis, tu vois, je crois que nous avons toujours été francs les uns envers les autres. Alors, je vais faire le bilan franchement, tu vois. Et je suis devant un échec. Je suis devant un échec, je l'avoue. Mon projet de confectionner en poterie des faucilles et des marteaux pour les vendre à la fête de l'UMA n'a pas abouti. Je me suis trouvé devant deux problèmes. Un problème pratique d'abord, c'est-à-dire qu'il y avait le nombre des faucilles ne correspondait pas au nombre des marteaux.
Oui,
et deuxièmement, j'ai eu un problème de motivation de la part des adhérents. Et ils ont tout cassé. Je les ai gardés un mois et ça n'a pas vraiment marché, oui. Tout cas, comme j'aurais voulu.
Francis, est-ce que tu ne crois pas que pour ton atelier poterie, là, tu as un petit peu payé les pots cassés pour ta gestion de l'année dernière?
C'est possible, c'est possible.
Je pense.
Oui, donc tes éléments ont été des cas difficiles.
Des cas difficiles, une insertion sociale assez difficile, assez tu vois, dans le milieu culturel de la maison de jeunes de la commune, tu vois.
D'accord. Bien, je prends note de tout ce que tu viens de dire.
Merci.
À toi, Francine, pour l'atelier danse-musique.
Oui, bah moi, contrairement à Francis, ça s'est plutôt bien passé parce que mon effectif n'a pas changé.
Oui.
J'avais pas d'élèves au départ et j'en ai toujours pas.
Oui, donc c'est une... Bon, peut-être pour l'année prochaine, à la rigueur, on peut s'attendre peut-être à une petite progression.
Oui,
peut-être.
D'accord.
Oui,
bon, éventuellement.
En ce cas, tu peux t'occuper d'autre chose que l'atelier danse-musique.
C'est important parce que ça n'a pas régressé, tu comprends?
Oui, oui, je comprends.
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu vraiment de progression non plus, mais c'est...
Oui, j'ai compris, oui.
Ouais. J'avais pensé peut-être à élargir l'atelier en mettant peut-être un atelier cuisine.
Oui, danse-musique-cuisine, ça
voilà.
Va très bien. Oui.
Auquel cas, il faudrait aussi, parallèlement à la cuisine, mettre aussi un atelier régime, parce que j'ai peur que le cours de danse, alors là, ça marche pas.
D'accord. Bon, bah, atelier danse-musique-cuisine-régime, ça me paraît bien. Droit de la femme aussi, étant donné que tu n'as pas d'élèves, tu peux t'occuper de ça. De toute façon, j'ai téléphoné au maire, il m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème. Cette année, on aura des...
On aura plus de frais que...
Non, plus de subventions.
De subventions.
Voilà le petit théâtre de Bouvard.
Alors, je m'en souvenais même plus.
Vous êtes l'animateur de cette réunion des MJC, Didier Bourdon. Alors autour de vous, il hein, faut dire que c'est pour ça que ça m'amusait, c'est pas les inconnus qu'on connaît. Hein, c'est...
Enfin, il y avait un quatrième, c'est Seymour Broussel qui
en a fait partie au début.
Qui en a fait partie au
qui
début.
Qui est là aussi, oui.
Il y a Bruno Chappelle qui continue le théâtre et qui était un ami d'ailleurs très proche de Bernard Campan, que je croise de temps en temps.
Voilà.
Et Jacqueline Jolivet qui est
très drôle d'ailleurs.
Oui, qui est une comédienne que les gens connaissent puisque c'est la maman du petit Michael dans Les Trois Frères.
Ah,
et qui était
voilà.
Une partenaire du conservatoire, qui est une actrice assez rare parce qu'elle a un petit côté comme ça à la Marilyn Monroe. Et là, je me rappelais même pas ce sketch, c'est drôle. C'est...
Mais alors, ce qui est amusant d'ailleurs dans ce petit théâtre de Bouvard, j'ai vu, c'est qu'il y a en fait, il y a toute une génération de jeunes acteurs comiques qui est là. Il y a aussi, j'ai vu Laspalès, etc. Mais qui vous a tous déniché? C'était Bouvard lui-même ou c'était quelqu'un qui est avec lui, qui allait chercher un
non,
petit
c'est,
peu
Non, c'est l'appât du gain. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'étais jeune papa, je sortais du conservatoire. Je jouais d'ailleurs dans deux spectacles de Café Théâtre, à 20h avec un certain Pascal Légitimus, et l'autre à 22h avec un certain Bernard Campan. Et donc, c'est Pascal Légitimus, je crois, qui m'avait dit, tiens, il y a une nouvelle émission et tout, mais il faut passer des
auditions.
Des auditions.
Voilà.
Et donc, comme je l'ai dit, je ne sais plus dans quelle émission, à 10h du matin, je l'ai fait, mais avec modération, j'ai pris un petit verre de bière, parce que j'étais très, très tendu, ça m'a détendu, et j'ai passé l'audition, je suis rentré dans l'équipe, mais il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'à chaque fois, on passait une audition, c'est-à-dire, on signait pas de contrat, hein.
Ah ouais.
Il fallait que ça plaise à Bouvard.
C'est lui quand même qui choisissait. Hein.
Alors qu'il disait oui, ça me plaît, ça me plaît pas, tout
ah
à
ouais.
fait. Et d'ailleurs, au départ, il n'y croyait pas trop. C'est sa femme qui a vu que, bon, à l'époque, il n'y a pas Internet, mais il devait y avoir certainement du courrier des lecteurs. Il s'est dit, mais dis donc, les petits jeunes qui passent, ça plaît énormément. Parce qu'il voulait faire vraiment les grosses têtes, qu'il a fait plus tard d'ailleurs.
Ouais.
Et après, c'est devenu au fur et à mesure le théâtre de Bouvard. Et là, je veux dire, franchement, c'était une occasion de rencontrer plein de camarades et de gagner notre vie aussi. Hein.
Bien sûr.
C'était un gros succès. Hein.
Donc les inconnus se sont formés donc après plutôt à la
alors c'est là où
émission.
Ça s'est comme je dirais voilà c'est un dalien ça s'est cristallisé voilà c'est ça les infinités électives se sont faites là vraiment on s'entendait bien mais là d'un seul coup il y a eu bon on était quatre enfin il y avait Smaïn mais lui il faisait son one man show donc il nous a un peu accompagné mais il nous avait dit dès le départ qu'il allait faire sa course en solitaire et après avec Seymour on a fait quand même quelques années ensemble à quatre et après Seymour a préféré arrêter c'était pas son truc et c'est là que ça a explosé.
Et qui est-ce qui écrivait alors ce qu'on vient d'entendre par exemple?
Les
uns ou les autres,
là,
tout le monde ensemble.
Si c'était
ça
à De Bouvard, c'était vraiment autour de la table.
Ah ouais.
Chacun amenait son. Oui, c'était vraiment une écriture très fraîche. Hein. On avait un jour, deux jours pour écrire. Parfois, on improvisait énormément en direct. Hein. D'ailleurs, ça s'entend un peu parfois.
Et alors, finalement, sortant donc du conservatoire, cette noble et grande maison, finalement, vous vous retrouvez, ce qui est merveilleux, mais enfin, ce qui était peut-être, ce que vous l'aviez prévu, à faire du comique avec un groupe d'amis.
Alors, je me suis jamais posé la question parce qu'en fait, j'étais tellement baigné dans le vrai théâtre que J'ai connu Shakespeare, j'ai connu Molière. En fait, ils ont démarré pareil, quoi. Ils sortaient pas de grandes écoles, ils venaient là, ils étaient un peu regardés de haut. Ouais, et vrai. En fait, c'est devenu quand même Shakespeare et Molière. Ben oui, c'est ça. Cet esprit de troupe et surtout un esprit novateur. Parce que moi, peut-être que la Comédie française me faisait peur aussi un peu pour ça. J'adore les anciens textes et tout, mais il y a un petit truc que j'aime bien, c'est d'essayer de créer quelque chose de... Voilà, après, bon, ça sera peut-être pas, voilà, éternel, mais au moins, j'aurais, voilà, essayé de faire quelque chose de nouveau. Après, j'ai énormément de respect, bien évidemment, pour nos classiques. Mais je me suis inspiré énormément de nos classiques, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs, au conservatoire, j'avais pris comme, ça fait 40 ans maintenant que je l'ai passé, le concours, comme scène classique, l'impromptu de Versailles, où je joue Molière lui-même. Et c'est une scène où il dit à ses copains, tiens, mets-toi là, mais pourquoi tu arrives en retard et tout? Et alors, après, il efface public, il parle d'un problème qu'il a eu avec les journalistes de l'époque. Et donc, c'était peut-être prémonitoire d'avoir un directeur de troupe, voilà, travailler avec les copains, écrire et créer des choses nouvelles.
Et pour la bonne bouche, alors maintenant, un petit peu des inconnus.
William, salut, ça va?
Ah, salut, Benoît.
Salut, ça va, tu vas bien?
Ça va bien. Et toi?
Excuse-moi, je suis vachement late en retard, Rochers, tu vois.
Ouais, les périphes étaient bouchés.
Ah, le périph' était bouché, oh, de Rochers total, tu vois.
T'aurais pu me coller, t'as bien le téléphone dans la voiture.
Ouais, mais j'ai que l'international, j'ai pas le national encore. Henri Brice n'est pas là, hein?
Non, tu sais, je pense qu'il va arriver dans une few minutes. Moi, ce que je te propose, tu me fais un petit topo briefing en attendant, puis on commence les vagues.
Okay. Ok.
D'accord.
Je peux take a chair?
Vas-y, vas-y.
Ok, thank you.
Tout de suite.
Bon, si tu veux, j'ai une super good news pour notre agence de pub, Pub of Saint-Ouen.
Ouais.
On a les pleins pouvoirs pour mener la campagne présidentielle du candidat Jacques...
Chirac?
Non, Jacques...
Langue?
Glandu, voilà.
Je connais pas. Non, c'est pas grave, l'essentiel, c'est qu'on ait les mains libres. Hein. Qu'on ait les mains libres. Non, pardon, qu'on ait les free hands.
Excuse-moi. Ah oui, les free hands, oui.
Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, bleus les yeux Isabella. Soudain quand elle est partie, j'ai vu qu'elle n'était plus là. Et comme elle n'était plus là, je me suis dit elle est partie dans la nuit noire.
Dans la nuit noire et obscure,
obscure et sombre, qu'Isabelle s'est cognée contre les murs. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, bleus les yeux Isabella.
Y'a plus d'espoir dans la nuit noire, sur le quai de la gare, dans le brouillard, il faisait un froid de canard.
Les mecs, j'ai plus de rime en art.
C'est pas grave, on continue la chanson. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, bleus les yeux Isabella, Isabelle belle a les yeux.
Oh, le solo guitare, oh monstrueux. Oh merde, attends, je comprends pas là. Et les mecs, si on se faisait un plan en anglais, on va conquérir l'Europe.
Oh, ouais. Isabelle a the blue eyes, Isabelle a the blue eyes, Isabelle eyes the blue, blue eyes Isabelle est naze.
C'était trop tard quand j'ai su qu'elle me quittait,
qu'elle me quittait. Je l'ai su oui que très très tard. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus, bleu les yeux Isabella.
Isabelle, lorsque je t'ai rencontré pour la première fois, tu avais les yeux bleus. Et lorsque tu m'as quitté, tu avais toujours les yeux bleus.
C'est normal, hein.
Sur quel nagar, j'ai voulu la rattraper. C'était trop tard, son avion venait juste décoller.
Oh les mecs, je viens de trouver un accord à la guitare complètement monstrueux.
Vas-y,
écoutez.
Ouais,
monstrueux. Tu vois, c'est pas compliqué, tu vois, tu mets le doigt là, tu
ouais,
vois,
ouais.
Et après tu fais comme ça, regarde. Oh, c'est monstrueux.
Ouais.
Oh là là, c'est complètement d'enfer.
L'éclat total, tu vois.
Oh, je vais vous dire les mecs, ça va être monstrueux.
Isabelle a les yeux bleus, c'était dans l'album Bouleversifiant en 1991, Les Inconnus bien sûr. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Didier Bourdon, que le répertoire des Inconnus, il a nourri plusieurs générations de jeunes gens, de lycéens, de gens qui découvrent voilà l'humour, etc. Et aujourd'hui encore, quoi, ça circule d'une façon extraordinaire, ce fond. Hein,
c'est vrai, je me rends compte parce que dans la rue, voilà, on voit bien toutes les générations, même les jeunes de 14-15 ans.
C'est ça.
C'est vraiment très touchant.
Voilà. Parce que vous avez saisi aussi tout de suite, j'ai envie de dire, justement, comme Molière, un petit peu les ridicules du temps, et vous en avez su en faire des quantités de sketchs, de variations, etc.
Oui, c'est vrai. L'autre fois, je suis tombé sur un article sur Till l'Espiègle, avec l'histoire de Spiegel, peut-être le miroir. Oui, c'est ça, c'est ce côté un peu miroir.
L'invasion des anglicismes, par exemple, là, vous le faites en 91, mais aujourd'hui, c'est à puissance 10, quoi.
Oui, c'est ça, avec les mecs qui font semblant de pas comprendre et tout, oui. Puis ce côté un peu chanté, un peu.
Oui, aussi.
Voilà, ça, c'est vrai, c'est très, très, très plaisant à faire. Après, c'est aussi du fleuret, ce qui est bien dans le jeu. Je crois que ça fait aussi partie un petit peu de la pérennité des sketchs, c'est que il y a aussi la forme qui est quand même voilà qui était assez réussie quand même. Maintenant que j'écoute, je suis beaucoup plus objectif parce qu'à l'époque je regardais pas trop, parce que je voyais trop tous les défauts. Il y en a encore bien sûr, mais voilà, il y avait quand même une ferveur aussi, un enthousiasme. Hein, ouais. Et mes copains me font beaucoup beaucoup rire, donc ça c'est bon signe.
C'était en improvisant que les idées venaient ou les plutôt deux. À la table.
Alors, d'abord la table et après l'improvisation. Mais d'abord une base toujours solide. Et après, moi, j'étais assez champion de l'improvisation, parfois trop, donc il fallait couper.
En tout cas, voilà, et il faut dire aussi que, évidemment, le répertoire des Inconnus, c'est surtout des sketchs parlés, mais il y a eu quand même une grande présence de la chanson, notamment à travers ses succès, « Auteuil ne y passie »,« Le rap tout »,« C'est toi que je t'aime », celle qu'on vient d'entendre, mm-hmm. « Isabelle a les yeux bleus ». Finalement, la chanson a été quand même un élément important de la diffusion de vos sketchs et de votre humour. Hein.
Oui, c'était un moyen aussi de changer notre champ d'écriture, de faire des sketchs un petit peu différents. D'ailleurs, les chansons ne se ressemblent pas. Il y a vraiment des chansons qui sont très parodiques, comme Isabelle les yeux bleus. Puis il y en a d'autres, comme Les Vampires, c'est autre chose. C'est vraiment un univers. On utilise le rap pour faire un rap un peu vampire. Vice versa, c'est autre chose. C'est carrément une mélodie très new wave pour critiquer un petit peu les groupes un peu pseudo-romantico, compliqués. Je m'explique, mais je comprends rien.
Les ridicules du temps, toujours. Hein, c'est très présent.
Toujours ça. Ouais. On parlait de Molière. Voilà, c'est notre grand maître à nous. Hein. Voilà. Les faux dévots aussi. Bien évidemment, dans les hommes politiques, mais ça c'est moins les chansons. Mais Didier Barbelavie et Félix Grave aussi.
Barbelavie, ça a dû lui faire plaisir.
Oui. Oh, mais en même temps, c'était jamais des critiques ad nominem, c'était l'esprit du truc, parce que c'était pas les seuls à faire des chansons sur l'amour un peu facile. Voilà, on critiquait plutôt un style, un peu comme Isabelle Yeux Bleus, c'était pas forcément Indochine, ni partenaire particulier, c'était le style de l'époque, les mecs qui sortaient de Subdeco, qui faisaient de la musique avec trois accords sur un DX7, quoi, voilà.
Et puis le snobisme, et puis c'est un certain monde intellectuel, et puis...
Ah oui, ça on aimait bien, c'était ma fonction, notre fonction.
À propos de vampires, là vous venez de parler d'une chanson, mais il paraît qu'à 20 ans vous avez déjà écrit une comédie musicale sur les vampires.
Alors c'était un album de chansons vampires. Oui, j'avais une dizaine de chansons sur les vampires. C'était Jacques Play, le producteur de Joe Dassin, entre autres, qui avait remarqué le truc et qui m'avait dit « Tiens, je te prendrais bien dans un café-théâtre pour chanter, j'aime bien ton univers ». Et donc ça s'était fait, alors oui, des chansons, alors il y avait un public assez limité à l'époque, il y avait des gens qui partaient pendant le spectacle en disant c'est quoi ce truc là, puis il y avait des passionnés qui disaient putain j'adore ton univers, comme quoi voilà, alors c'était particulier hein. Mais bon, j'ai toujours été attiré par les vampires, je sais pas pourquoi, ce côté un petit peu étrange, voilà. À la fois esthético-morbide.
Et donc Didier Bourdon, après le théâtre, la chanson, nous voilà arrivés à la question du cinéma.
Mais tu sais que c'est ça le problème en France. On parle, on n'agit pas.
Je suis d'accord.
D'ailleurs, en Portugal,
justement, à propos d'agir, je sais, tu veux pas mettre tous tes œufs dans le même panier, c'est d'accord. Alors moi, j'ai pensé que seulement 200 briques dans la société, ce serait bien. Qu'est-ce que t'en dis?
Non, c'est intéressant. Hein. Quelqu'un reprend des sushis, là
terrible en France, c'est fou. Mais qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas se payer un beefsteak.
Ils ont qu'à acheter du poisson.
délicieux.
Merci.
C'est un plat typique de chez vous?
Ah non, non, pas du tout. Non, mais je suis pas né dans les îles, moi. Je suis de Paris.
Ah bon?
Oh, t'as bien un petit chromosome avec un os dans le nez, hein? Ah, c'est de l'humour, ça. C'est de l'humour. Chut! Que je me fâche pas avec mon futur associé, moi, dis donc, quand même. Pascal, 150 briques.
Oui, excusez-moi. Oui. On verra tout ça tranquillement demain au bureau, on n'est pas pressé là.
Alors sans plaque, maintenant.
Un petit extrait du film Les Trois Frères, alors avec les comédiens, hein, bah, en l'occurrence d'ailleurs les inconnus et puis aussi, oui, Bernard Farcy.
Il y a Elie Semoun.
Et la musique.
Et la musique signée Olivier Bernard.
Olivier Bernard, voilà, qui est un de votre génération d'ailleurs.
Ah, bah, c'est un ami d'enfance, hein, vraiment. On s'est suivi, qui est un très très un professionnel et qui
du
est
jazz plutôt.
Plutôt jazz.
Voilà, et qui a accompagné beaucoup de vos aventures cinématographiques.
Exactement. Hein. Bah, j'ai deux amis. J'ai Olivier Bernard et Didier Vincent, qui était un ami aussi poète.
Ouais.
Et qui lui est devenu professeur en musicologie et qui m'a fait découvrir Webern par exemple.
Ah, voilà,
lui, il était plus classique. Et Olivier Bernard, oui, voilà, qui a été professeur aussi au conservatoire et tout. Enfin, vraiment, voilà, ils m'ont suivi et d'ailleurs je les salue s'ils m'écoutent.
Voilà, et ça c'était donc le film culte, si j'ose dire, des inconnus, Les Trois Frères en 1995, dont il faut rappeler que 20 ans après, il y a eu le deuxième suite, volet, la suite ça, des Trois Frères.
Hein. Il n'y avait plus le petit enfant, mais il y avait la fille de Bernard Campan. Et peut-être, j'aimerais bien un troisième volet, c'est pas impossible, j'ai commencé à écrire une idée. Alors le triptyque, ça peut être pas mal.
Voilà, parce qu'il faut préciser aussi d'ailleurs que les inconnus, contrairement à d'autres groupes, parfois si on regarde l'histoire des arts, sont restés toujours copains. Il n'y a pas eu de brouille, il n'y a pas eu de...
Oui,
Puis il y en a avoir des petites sans doute, j'imagine,
pas du...
comme ça.
Non, c'est des brouilles artistiques à la rigueur, mais ouais. Pas humaines. Non, le petit reproche qu'on pourrait se faire, c'est peut-être que on aurait pu faire des films à trois un peu plus tôt. Parce que le temps passe, en fait, on s'en rend compte. Ouais. Et là, on se voit bien cette semaine, les trois. Ouais. On va voir, on va réfléchir.
C'est Les Trois Frères qui vous a, donné le déclic pour devenir vraiment à part entière et réalisateur et faire, par exemple, ce petit chef-d'œuvre que j'aime depuis toujours qui s'appelle 7 ans de mariage.
C'est gentil. Bah, j'avais envie, mais toujours un peu de pudeur, un peu de timidité, franchir le pas. D'ailleurs, 7 ans de mariage... J'ai eu peur de le faire tout seul.
Ah ouais.
Et c'est un ami à moi qui m'avait dit, mais vas-y. Et en fait, en plus que Catherine Froh, je la connaissais pas bien, mais enfin, je l'avais croisée au conservatoire à l'époque. Et en fait, ça s'est très 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 bien passé parce que je savais exactement ce que je voulais. Après, Bernard Campan vous dira qu'on a signé Les Trois Frères, que c'était moi qui réalisais. C'est vrai, j'étais vraiment en première ligne, mais parce que j'avais Bernard qui me soulageait pour me dire, tiens, est-ce qu'on fait ça, ça et ça. Et Bernard est un garçon qui a montré après qu'il pouvait aussi réaliser, mais sûr de son côté, et Pascal aussi. Ouais. Mais bon, ça me rassurait à l'époque d'être en groupe. Mais à un moment donné, les décisions, faut les prendre seul, hein. Surtout quand on est sur un plateau et on doit répondre à 1000 questions en même temps.
Mais là aussi, en tout cas, vous avez assez rapidement illustré, même si vous n'avez pas fait que ça, ce genre assez français, que moi j'adore, qui est la comédie sociale de mœurs contemporaine, voilà, on pourrait dire.
Oui, c'est ça, exactement, avec des côtés un petit peu sarcastiques, caustiques. Ouais, les Trois Frères, c'est certain que... D'ailleurs, je crois que les Américains veulent faire un remake depuis un petit bout de temps, parce que c'est vrai que ça serait très intéressant de mettre trois demi-frères, un hispanique, un black et un juif. Ça serait intéressant qu'ils se retrouveraient d'un seul coup dans la même famille. C'est ça qui est beau.
En tout cas, quand on voit vos films, et moi, je les aime vraiment beaucoup, on n'a jamais l'impression de se dire, tiens, soudain, il a voulu prouver qu'il n'était quand même pas cantonné au registre du comique, et comme si vous deviez vous débarrasser de cette image. Non, pas du tout, vous l'assumez totalement. totalement.
Oui, après,
même bah, si vous avez fait bien d'autres choses.
Bien sûr, non, ça me dérange pas. Et puis en plus, moi, je mets le comique vraiment au plus haut niveau. Hein, c'est
voilà, on revient.
Même le tragique. Bah, je dis souvent la phrase de Socrate dans Le Banquet. Il appartient à la même personne de faire le comique et le tragique. Je le pense profondément parce que le comique, c'est vraiment.
Oui, d'ailleurs, vos personnages sont souvent des destins pas très drôles, même s'ils nous font beaucoup rire. Hein.
Ça, les trois frères, je peux faire une version noire et sordide de l'histoire. Voilà. D'ailleurs, même un producteur avait refusé de faire le film à l'époque. Il est mort, le pauvre, mais il avait dit, oh non, il y a la mère qui meurt au début, ça va pas faire rire et tout. Ben, on lui avait dit, vous savez, on s'est inspiré beaucoup des comédies italiennes qui sont aussi très acides. Ouais. On rigole, mais après, on va revenir à Molière.
Solitaire, dépressif, trompé.
Molière, Harpagon, il est pas assez. Je veux dire, dans les Fourberies de Scapin, les Géronte et Argante, c'est vraiment des sordides personnages et c'est pour ça qu'on rigole. Moi, j'adore ça parce que c'est là, pour moi, fait partie de l'art sublime, la comédie. Après, j'adore aussi, bien sûr, les choses tragiques, les thrillers et tout. D'ailleurs, en tant qu'acteur, en revanche, alors ça, j'adore. Mais dans l'écriture, j'aurais du mal. Si, j'ai écrit des choses différentes. Mais toujours avec, un peu comme dans l'album, un petit côté second degré, un petit côté toujours un petit peu prendre du recul sur les choses. J'ai du mal à être trop premier degré, c'est pas mon truc, quoi.
Et quand on préparait cette émission et qu'on a parlé aussi de musique de cinéma, alors outre Olivier Bernard est arrivé le nom d'Ennio Morricone dans La Cage aux Folles, bien sûr. Oula. Et on est toujours évidemment dans le monde de la comédie, puisque c'est la bande originale de La Cage aux Folles, signée Ennio Morricone. Et pourquoi La Cage aux Folles? Parce que donc ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs, Didier Bourdon. En fait, vous avez été apparemment, avec Christian Clavier, les premiers à reprendre cette pièce à Paris, en tout cas, après la création
de Poiré
Cero, et des années après.
C'est pour une histoire de droit, je crois, j'ai l'impression. Je crois, hein, je suis pas sûr, mais...
En
2009 déjà. Oui. On a joué sur deux saisons et c'était un très très beau souvenir. C'était vraiment une période où j'avais une sorte de métronome de sportif, c'est-à-dire que vraiment je faisais ma sieste l'après-midi, je me préparais parce que c'est vraiment très fatigant. Les vaudevilles sont très épuisants et la pièce est formidable. À mon avis, beaucoup plus forte que les films qui sont déjà très bien, mais l'écriture a été un petit peu malmenée. La pièce est d'une modernité. D'ailleurs, elle a été reprise à New York et ensuite à Londres. Ouais, ouais. ça parle de mon personnage, je parle de homoparentalité, je parle de
vous Zaza, je... hein.
Oui, Zaza, oui.
C'est vous, hein. C'est, voilà. Ça a été décidé d'emblée, comme ça.
Ah oui, c'est Clavier qui m'a appelé, il m'a dit, voilà, j'étais en Italie, je me souviens, ça te dirait de faire une... Et là, j'ai dit oui tout de suite.
Vous saviez pas lequel?
Ah, mais moi, tout ce qui est Poiré, c'est quand même Jean Poiré et Pierre Mondi, comme je le disais hors antenne, qui a ouvert les portes du Palais Royal aux Inconnus, parce qu'ils étaient venus nous voir à Nancy, ils avaient adoré. Ah. Je me souviens, on était allés manger après dans une brasserie, ils nous regardaient un peu en disant, oh, c'est formidable. Et nous, on était hyper intimidés, parce que c'est deux grands monsieur. Poiré avec ses grands yeux bleus, là. Et donc, moi, tout ce qui est Poiré, moi, je fonce. Hein.
Ouais.
Et alors, c'est vrai qu'à un moment donné, on aurait pu intervertir, mais Zaza, j'ai eu peur, hein, très honnêtement, parce qu'il y avait quand même... mais en fait, les gens connaissent le film, mais la pièce n'a jamais été captée. Donc, heureusement, la comparaison s'arrêtait là. Et puis après, je vais vous dire une chose toute bête, mais les grandes pièces, eh ben, elles sont faites pour être jouées par d'autres acteurs. Le misanthrope, il n'y a pas qu'un seul acteur qui va le jouer. Et ben, La Cage aux Folles aussi... Après, ce qui m'a rassuré, c'est qu'il y avait un acteur qui s'appelait Jean-Jacques, un Belge qui est un très très bon acteur, qui l'avait joué. Mais enfin bon, je vous cache pas que j'avais un petit peu les foies.
On n'a pas peur d'en faire trop dans ce genre de rôle, ou au contraire, il faut en faire trop?
Non, au contraire, ce qui est un sympa, mais moi, c'est dans Les Inconnus, j'ai beaucoup travaillé ça, c'est faire le moins possible.
Ah oui.
Et parfois, quand... le personnage de Zaza en fait des tonnes, mais c'est parce qu'elle veut en faire des tonnes. Je dis bien elle, parce que Pierre Mondi, le pauvre, devait faire la mise en scène, après il a été très vite malade, et puis il nous a quittés après. Mmh. Il m'avait dit, songe une chose Didier, s'il ne me disait pas Michel, parce que parfois il me disait Michel, on pense à zéro. Il me dit, pense à une chose, tu es une femme dans le rôle, tu es une femme. Ouais. Et donc voilà, alors à la fois je faisais parfois un peu d'excentricité, mais c'était dans le personnage qui faisait exprès. En revanche, quand je me déguisais en bonne femme, là j'ai eu un plaisir, ça m'a rappelé Les Inconnus, de le faire le plus sobrement possible. Bonjour, c'est vous.
Voilà, c'est ça.
Comme dans Madame Irma.
dans les classiques de l'humour popularisé par le cinéma, vous avez également joué au gymnase Jo.
Oui, alors ça, plus récent.
Ouais.
Pièce aussi assez fatigante, mais tous les votes.
À travers Louis de Funès, évidemment.
Oui, Louis de Funès. Et au théâtre, c'était Robert Lamoureux. Voilà, Robert Lamoureux, qui était génial dans la pièce aussi. Donc là, je l'ai regardé un petit peu. Pas trop, parce qu'il faut pas non plus... parce que sinon, après, ils vous foutent des complexes, et puis ce que vous dites...
Non, c'est ça, oui.
Non, puis en plus, chacun sa partition, voilà. Et Joe, c'était super, avec Audrey Fleurot et Dominique Pinon. Actrice et acteur que j'adore, et Dominique Pinon, c'était la première fois aussi que je tournais avec lui, que je jouais avec lui, et vraiment c'est un acteur remarquable, un être humain aussi formidable. Et voilà, donc c'était une belle expérience, c'était une expérience assez rapide, parce que l'idée c'était de le jouer une quarantaine de fois, de le capter, et j'avoue que j'ai eu de la chance, parce qu'on a arrêté au moment après où il y a eu les grèves de SNCF, et un peu après il y a eu le virus, voilà. Alors, on a eu du pot.
Mais quand vous retournerez au théâtre, je sais pas si vous avez envie,
j'ai envie.
Mais moi je vous verrais bien aussi dans des, je sais pas, dans des Fédos, des Labiches, des...
Oui, non, j'ai envie, oui, ouais. On me propose ça, oui, j'aimerais bien. Ou alors un Molière, pourquoi pas, un peu revisité,
évidemment,
voilà.
Évidemment.
Non, mais j'attends. Alors après, voilà, on propose pas mal de choses, mais je dis, écoutez, attendons un peu. Je crois qu'ils attendent tous, parce que bon, si c'est pour travailler et devoir arrêter en novembre ou en octobre, ça fait du mal tout ça.
Alors, en tout cas, entre-temps, vous avez aussi été rattrapé plusieurs fois par le virus de la chanson, après le temps des Inconnus, et notamment celle-ci, tiens, alors qui parle drôlement bien de notre époque. Pourtant, je crois qu'elle est de 2003 ou 2004, on peut plus rien dire. Hein,
2005. Ouais.
Voilà, et ça s'est pas arrangé depuis, hein, et j'invite les auditeurs à bien écouter les paroles.
On peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi. On peut plus rien dire. Si je veux parler d'Allah, on va me dire là vaut mieux pas. Si je prononce le mot qui part, t'es gentil, tu la gardes pour toi. Si je vous dis Jésus, désolé, ça n'intéresse plus. Et pareil pour Bouddha, ah oui, le fromage des Pays-Bas. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Si t'as une surcharge pondérale, on t'oblige à crever la dalle. Si je dis que j'ai envie de refumer, sûr j'aurai le cancer dans l'année. Si je me décide à faire du sport, on me dit fais gaffe, pas trop d'efforts, on peut plus rien faire. Si je dis que j'ai un ami homo, attention dis pas que c'est un PD. Si je dis que j'ai des côtés macho, ouais t'es plutôt qu'un obsédé. Si je dis que j'aime bien les animaux, ils vont penser que je suis zoophile. Ou j'avoue j'adore les marmots, ils vont me dire que je suis pédophile, on peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi. On peut plus rien dire. Faut faire gaffe au radar, au motard, au pinard, au ricard, au pétard, au clébard, au paplard, on peut plus rien dire. Tu dis la France quand même, c'est vrai c'est un beau pays, mais tu rigoles, la France c'est qu'un pays de pourri. Peut-être en fait t'as raison, c'est pas si bien qu'on dit. Eh ben alors connard, qu'est-ce qui t'oblige à vivre ici, on peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. Si t'avoues que t'as lu Céline, tu risques vite d'être dénoncé, et qu'étant jeune t'étais trotskiste, va te planquer vite à l'île de Ré. Si tu dis que t'es de bonne foi, on va te dire c'est de la langue de bois, et quand t'es pas consensuel, t'as droit au quai con celui-là. Si tu dis merde, je veux plus voter, on te dit t'es qu'un enfoiré. Si tu dis pour qui t'as voté, t'es con, c'est tous des angles, on peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. Faut faire gaffe au radar, au motard, au pinard, au ricard, au pétard, au clébard, au paplard, on peut plus rien dire. Ou de sortir style une connerie, mais je crois que ça a été déjà fait. Messieurs, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ouais, c'était déjà fait, il vaut mieux rien dire.
Ouais, je suis une femme de Florentanie.
Si tu veux pas te retrouver seule, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire.
Je crois qu'on doit avoir la liberté de penser ou pas.
On peut plus rien dire.
Nous allons créer une loi contre l'homophobie.
Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire.
Alors une vraie loi, hein, pas une loi de tafiole, enfin de...
Faut faire gaffe, ils ont dit, à l'autre source, ça aussi, à la bourse, ça aussi, au virus, ça aussi, au malus, ça aussi, au PV, ça aussi, aux UV, ça aussi, à Beauvais, ça aussi, à la bouffe, ça aussi, et au pouf, Sarkozy, c'est... J'ai dit une connerie. J'ai dit une connerie. Ouais, j'ai dit une connerie, là. Bon allez, éteignez-moi tout ça, là-haut. Monsieur Bourdon, vos papiers, s'il vous plaît.
C'est quelque chose qui vous préoccupe, Didier Bourdon, ce « on ne peut plus rien dire », faut faire attention à chaque fois à qui on ne va pas heurter en disant une phrase.
Oui,
ou que...
c'est très contrariant parce que...
Surtout quand on fait de l'humour.
Ben oui, ouais. Moi je m'aperçois, bon aujourd'hui, mais quand même, il faut faire attention, on a peur de... Enfin, de heurter, moi, ça me fait pas peur, mais on n'est pas à l'aise, quoi. Et surtout, je me dis qu'aujourd'hui, les inconnus, je sais pas, on utiliserait certainement le réseau Internet, parce qu'on nous dirait gentiment, je pense qu'on le dirait pas de manière brutale, mais on dirait non, il vaut mieux pas faire ceci maintenant. Oh là là, vous savez, non, il faut pas faire ça, parce que ça peut heurter.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais là, ça commence à faire peur, parce que, sans liberté de rigoler, il n'y a pas de pays libre.
En tout cas, c'est comme l'invasion de l'anglais. Une fois de plus, vous l'avez vu venir avant tout le monde. Là, c'est.
Alors, la prochaine chanson, ça sera sur quoi?
C'est ça, vous me faites peur maintenant.
La Cassandre. La chanson.
Celle-là, vous l'avez enregistrée, comment ça s'est passé? Parce que vous avez fait voilà, plusieurs singles, comme on dit, au fil du temps. Il y a eu aussi, il n'y a pas très longtemps, en 2013-14, j'aime bien, c'est-à-dire 60 millions de Français, un décalque de la chanson de Dutronc, mais qui nous parle aussi beaucoup de notre époque. Hein,
oui, puis ça se finit sur les Martiens qui ne veulent pas venir sur Terre parce que la Terre est trop polluée.
Donc voilà, donc c'est des chansons engagées, on pourrait dire, même si elles restent drôles par certains aspects.
Oui, ben voilà, oui, engagé au premier degré, c'est jamais quelque chose qui me plairait, mais oui, je, voilà, souvent d'ailleurs, ça part d'un cri du cœur. On peut plus rien dire, je pense que moi, je m'en souviens, oui, j'ai dû vouloir l'écrire en me disant allez, on va faire ça, surtout en tant que membre des Inconnus, on est là pour c'est notre rôle nous hein, les fous du roi en fait, de bouger
des veilleurs, des veilleurs, oui voilà, d'alerte.
Oui, de lanceurs d'alerte humoristique, mais lanceurs d'alerte, c'est vrai certainement hein, sans vouloir jouer les gros bras, mais c'est vrai que c'est un petit peu, je sais que dans la rue, je vois bien des gens, c'est vrai qu'on leur a fait du bien. Notre producteur nous disait ça à l'époque et moi j'avais du mal à le comprendre, mais c'est vrai qu'on a au moins cette petite fonction, c'est d'essayer d'être une soupape, voilà. Tous les humoristes en général ou les artistes hein, d'ailleurs, mais bon, humoristes entre autres.
Et donc la chanson, en tout cas, elle revient maintenant régulièrement dans votre vie et au point que aujourd'hui c'est un album tout entier dont il faut dire vous êtes l'auteur, le compositeur et l'interprète, ce qui est évidemment assez fréquent dans le monde de la chanson, mais
pas l'arrangeur, c'est important. Voilà, pas évidemment.
Vous avez raison de souligner dans cette émission. Ah, j'aime bien qu'on mette en valeur le travail des arrangeurs.
Ouh, c'est très important. C'est comme un monteur au cinéma. Ouais. C'est-à-dire, c'est eux qui me proposent des choses d'ambiance. Par exemple, là, il y a des choses qui ne s'entendent pas que j'aime bien. C'est j'ai refait beaucoup de double voix dans le temps très grave. On le perçoit plus qu'on l'entend, on va dire. Et ça donne des couleurs. Et ça a été proposé par les gens qui ont travaillé avec moi.
Mais auteur, compositeur, interprète, c'était une évidence pour vous. Tout ça vient ensemble.
Non, pas forcément. J'aurais bien voulu reprendre une chanson, par exemple, de Topor, mais ça sera peut-être pour une autre aventure.
Paroles vous viennent en même temps que la musique?
Beaucoup d'artistes vous diront la même chose. Je pense que ça dépend. Il y a des fois, parfois, c'est le sujet, les paroles qui vous amènent la musique. Et parfois, c'est la musique qui vient, qui ensuite vous suggère une idée, des paroles. Mais encore une fois, je crois très honnêtement que j'ai toujours aimé la poésie et que la chanson me permet de renouer publiquement avec la poésie. Parce que moi, ma poésie, j'ai pas du tout envie de la publier aujourd'hui, jamais.
Ah, mais elle existe.
Ah oui, mais c'est quelque chose qui me... Bon, j'écris moins.
Elle a beaucoup de volume.
J'écris moins qu'avant. Non, mais j'ai écrit notamment une chanson de geste depuis l'âge de 16 ans qui s'appelle Couillon de Bulture.
Ah
qui
oui.
Est très, très bien. Et avec mon ami Didier Vincent, on avait écrit ça en parallèle. On avait deux personnages qui devaient se croiser. L'un devait prendre le cheval de l'un et l'autre le cheval de l'autre. Et non, il y a des textes que je redis qui sont... Alors c'est autre chose, mais aussi un petit peu déjà un peu caustique. Un peu des réflexions sur la vie. Bon, le personnage est pas très reluisant, mais c'est ce que j'ai fait au cinéma. C'est ceux-là qui sont les plus intéressants,
évidemment,
bien évidemment.
Évidemment. Alors cette chanson-là qu'on va entendre maintenant, Si tu me suis, avec Michel Larocque, un mot juste pour nous.
Ah ben oui, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le thème. Il y a un petit côté un peu vampire. C'est une comparaison entre les rapports humains et les rapports entre les animaux. C'est une émission anglaise qui m'avait inspiré là-dessus sur les animaux où ils faisaient des parallèles entre la vie sexuelle des animaux, la vie sexuelle des êtres humains. Il y a des choses incroyables. Si tu me suis, je te fuis. Si tu me fuis, je te suis. C'est comme ça, baby, le sens de l'envie. L'essence de la vie, c'est ni non ni oui. Peut-être demain, qui sait, aujourd'hui. Si tu me suis, je te fuis. Si tu me fuis, je te suis. Tu me suis. Les hommes, c'est pareil que les animaux. Approche, désir, parade nuptiale. Ça nous fait du bien de nous faire du mal. C'est partout pareil chez les gens normaux. Quoi, rien de plus banal. Depuis des temps immémoriales. Si tu me suis, je te fuis. Si tu me fuis, je te suis. C'est comme ça, baby, le sens de l'envie. L'essence de la vie, c'est ni non ni oui. Peut-être demain, qui sait, aujourd'hui. Si tu me suis, je te fuis. Si tu me fuis, je te suis. Tu me suis.
Les hommes sont pareils à tous ces chacals. Plus leur sang s'échauffe, plus on est glacial. Ça leur fait du bien de penser à mal. L'épouse idéale en femme fatale. Le masque de carnaval. Les pistes du devoir conjugal.
Si tu me suis, je te fuis. Si tu me fuis, je te suis. C'est comme ça, baby, le sens de l'envie. L'essence de la vie, c'est ni non ni oui. Peut-être demain, qui sait, aujourd'hui. Si tu me suis, je te fuis. Si tu me fuis, je te suis.
Tu me suis.
Trivial est l'amour chez les animaux. L'homme est plus caustique, moins phénoménal.
Ce qui n'est pas bien n'est peut-être pas si mal. En quête du péché original.
Consultez donc les annales.
Plus anciens que les bacchanales.
Si tu me suis, je te fuis. Si tu me fuis, je te suis. C'est comme ça, baby.
Si tu me suis, c'est une des chansons du nouvel album, du premier album, on peut le dire, même si vous en avez fait avec les Inconnus,
bien sûr,
le premier album solo voilà, de Didier Bourdon avec sa bande. Alors là, on a entendu Michel Larocque, qui donc j'imagine est une bonne amie.
En fait, on se connaît bien sûr, depuis longtemps, parce qu'elle avait participé à un sketch des Inconnus, mais en fait, on se croise.
Voilà.
J'aimerais bien un jour faire un beau rôle avec au cinéma avec elle aussi.
Et puis, en particulier, Laurent Berthaud, donc, qui est un peu votre complice musical dans tout ce disque. Hein,
tout à fait. Voilà, pour la petite histoire, c'est quand même le beau-frère de Bernard Campan, donc il nous suit depuis longtemps. il avait même travaillé sur le Paris. Et voilà. Et donc, voilà. Et notamment aussi Pavelé et Florent aussi, ils sont trois. Et voilà. C'était un travail passionnant c'est un petit peu de ma faute si ça a pris du temps, parce que comme j'étais pris ailleurs, je vais pas me plaindre, hein, au cinéma ou au théâtre. Mais à un moment donné, voilà, j'ai pu me poser pendant un certain temps pour bien finir la chose, parce que à un moment donné, bon, il faut consacrer au moins un mois et demi pour finir les choses, comme on dit.
La musique dans votre vie aujourd'hui, donc c'est très important.
Toujours.
Ouais. Vous disiez tout à l'heure, on en parlait, que même les sketchs, par exemple, du temps des inconnus, comme celui qu'on entendait tout à l'heure, les publicitaires, c'est une sorte de musique aussi, de rythme musical, hein, très important.
Oui, c'est vrai, l'humour qu'on a pratiqué, c'est bien évidemment très lié à la musique, avec les silences, avec parfois aussi même... Stéphanie de Monaco, c'est presque musical.
Stéphanie de Monaco.
C'est presque musical.
C'est voilà. vrai.
Oui, non, mais ça nous échappe d'ailleurs. Mais, ou salut. Bon, c'est, voilà, après, il ne faut pas le faire
c'est
trop
des
long.
Timbres, c'est des instruments.
Il y a des noirs, des brèves, des blanches. Voilà, c'est vrai, c'est très musical. Et puis, pareil aussi, le sketch, c'est un peu comme une chanson aussi d'ailleurs. Il ne faut pas que ce soit trop long. Curieusement, oui, même si on trouve de très bonnes choses, il fallait couper parce que ça devient trop après. C'est comme un voilà, c'est comme une
la chanson verbeuse, c'est terrible. La chanson trop longue, ça va pas.
Non, ça
format,
va pas.
Il y a un format.
Ouais, ouais. Exactement, il y a un format. C'est comme le sonnet. Alors c'est marrant parce que j'ai appris un sonnet de Joachim, comme elle dit, dans Cahiers du Bellay. Et elle m'a demandé, ma fille, elle m'a dit, pourquoi il y a 4, 4, 3 et 3. Alors je lui ai expliqué.
Voilà, ce que c'est qu'un sonnet.
Sonnet.
Quand vous n'écoutez pas Webern dirigé par Boulez, c'est quoi vos disques les plus favoris?
Webern, c'est super. Après, il y a Albenberg aussi qui est génial.
Ah bah oui,
enfin,
oui.
Alors, écoutez, ces temps-ci, je dois dire que je suis assez musique baroque.
Ah oui.
J'adore Handel, j'adore bon Vivaldi, bien évidemment. Ouais, ouais. Hier, j'ai écouté une émission allemande où le mec avait choisi le clavier bien tempéré par Monsieur Sladoslav Richter. Et d'ailleurs, petite parenthèse par rapport à France Musique, j'adorais cette émission, je ne sais pas si elle existe toujours, où il y avait le même morceau interprété par plusieurs...
Ah bah oui, bien sûr, ah, c'est un classique de la chaîne. C'est la tribune des critiques de disques de notre ami Jérémy Rousseau.
Oui, et donc cette émission, oui, c'était remarquable. Et j'avais découvert Sladoslav Richter, parce qu'à plusieurs reprises, on ne connaissait pas les interprètes. J'aime cette interprétation, et c'était tombé sur Richter. Je réécoute Richter.
Vous écoutez France Musique, en plus, vous me faites plaisir.
Ah bah oui, j'adore la musique. Mon père m'a initié à la musique classique, non. Et Haydn aussi. Quand j'ai envie d'avoir un peu la bonne humeur, j'écoute les symphonies d'Haydn.
Voilà. Et alors, ça, c'est quand vous avez envie de quoi quand vous écoutez Julien Clerc, Quitter l'enfance.
Alors, dans cette chanson-là, il y a un petit côté que j'aime beaucoup. C'est ce côté un peu, c'est bizarre dans cette chanson, parce que je sais pas si Julien Clerc a fait exprès, mais il y a un petit côté hellénique. C'est-à-dire, ça me rappelle la Grèce. D'ailleurs, à la fin, il y a presque un bouzouki qui vient. Et cette ambiance un petit peu mélancolie
méditerranéenne
ou de la mer Égée, j'aime bien ça. Et les paroles signées d'un certain Étienne Rodagil,
oui,
qui nous manque, mais voilà, c'est quand même voilà, on a du lourd.
Vous le connaissez, Julien Clerc?
Oui, il est très touchant. Il nous avait félicité pour Vice Versa, mais il nous a dit c'est vous qui avez écrit la chanson, formidable. Hein, j'aurais bien voulu. C'est vrai, ça m'avait touché parce que Julien Clerc quand même est plutôt connu pour de très très belles mélodies, entre autres. C'est un grand monsieur de la chanson française.
Thank you. se colore. Maintenant que tu veilles et tes poupées sont vieilles, maintenant que tu sors, maintenant que tu danses à chacun de tes pas, tu peux quitter l'enfance, ton enfance ne te quitte pas. Je ne peux rien te dire, je n'ai pas été fille, j'ai haï les familles comme tu peux les
Merci Didier Bourdon pour cette belle chanson et j'ose dire pour les arrangements de Jean-Pierre Sabar que je trouve vraiment magnifique.
Hein. Ouais, cette mélancolie qui fait du bien.
Voilà.
Bizarre.
Mais notre chère réalisatrice Christine Amado nous dit que la version de Maxime Le Forestier est également très belle. Voilà, donc les auditeurs pourront faire leur choix. En tout cas, voilà, bah, c'était une grande joie de vous voir ce matin, Didier Bourdon.
Et moi, un grand plaisir d'être avec parmi vous.
Hein. Avec votre disque. Moi, j'ai envie de dire, j'espère aussi bientôt quand même au cinéma. Alors, c'est vrai que peut-être ces dernières années, vous avez fait beaucoup de rôles hein, comme acteur, mais après Les Trois Frères, Le Retour, donc 2014, je ne sais pas quels sont vos projets de réalisateur. Après 7 ans de mariage, Madame Irma, Bambou, de ces films que j'avais beaucoup aimé.
Non, ben après, c'est vrai que j'ai des petites idées en tête, mais c'est vrai que j'ai pris du retard en tant qu'acteur. C'est un peu bizarre de dire ça, mais j'ai refusé beaucoup de choses à l'époque des Inconnus parce que c'était vraiment beaucoup de travail. Et, ouais. Et aujourd'hui, ben voilà, on me propose des rôles. Alors, je suis un peu en manque de rôles tragiques au cinéma. Je trouve qu'on me propose pas assez. Ah c'est oui. À la télévision, on m'a proposé des choses formidables, Duringer ou le téléfilm sur le burn-out, qui sont vraiment des films d'ailleurs. Ouais. J'aimerais bien, voilà, avoir retrouvé mes premières amours. Après, dans les comédies d'Alexandra Leclerc, les personnages sont pas loin du tragique. Hein, ouais. Donc, il y a des scènes d'une violence. Mais voilà, j'aimerais bien. Je lance un petit appel. J'aimerais bien jouer, voilà, un rôle de mafieux, un rôle.
Vous n'avez pas un film en préparation, en tout cas.
Alors, si j'ai des films en préparation, mais pas en tant que réalisateur. C'est vraiment des gens qui vont réaliser pour moi et qui veulent travailler avec moi.
Voilà, bah, en tout cas, on va continuer à suivre, évidemment, tous ces aspects de votre activité foisonnante, Didier Bourdon. J'ajoute d'ailleurs que dans votre disque qui vient de sortir et qui commence ironiquement avec une chanson intitulée « Pourquoi tu te mets à la chanson ?», il y a aussi, pour finir, vos copains, Campan et Légitimus.
Oui, c'était
un morceau à trois. Hein.
Oui, bah, c'est une reprise de Vice Versa. Ça m'a fait plaisir d'être adoubé par mes deux amis camarades.
Voilà.
On n'est jamais trop loin les uns des autres.
Très loin les uns des autres. Et voilà, vous retrouvez tout seul dans une chanson. Ah oui, je voulais vous demander tout à l'heure. Je trouvais que votre voix avait quelque chose parfois d'un peu gainsbourgien. Ça vous dérange pas quand on vous dit ça?
Alors là, vous m'auriez dit Balavoine, j'aurais été surpris. Mais... non, il se trouve qu'en dehors de toute comparaison artistique, j'ai la même tessiture que Gainsbourg. Ça, je le sais depuis longtemps parce que souvent, on reprend, ou c'est dans la voiture, on entend une chanson, on essaie de chanter. Quand c'est Sting dans Roxane, j'ai du mal. Et Gainsbourg, j'ai la même.
C'est vrai, c'est frappant par moments. Alors, vous savez que Gainsbourg disait que la chanson était un art mineur.
Et ben voilà, il y a un petit dans une chanson, exactement.
Et justement, on va se quitter avec votre chanson intitulée L'art majeur. Merci d'avoir été avec nous, Didier.
Merci beaucoup, très gentil.
La chanson
est un art mineur, la connerie un art majeur. Je ne vous citerai pas de nom, ce serait dangereux et bien trop long. Sûr qu'il n'était pas vraiment sourd, ce vieux jeune homme de Clémenceau, qui disait c'est trop grave la guerre pour la confier aux militaires. Combien d'illustres généraux qui eux n'ont pas risqué leur peau firent massacrer pour le drapeau des milliers de pauvres jouvenceaux. La chanson est un art mineur, la bravitude un art majeur. Je ne vous citerai pas de nom, ce serait dangereux et bien trop long. Combien de professeurs titrés nous ont trépané, triturés, tout en glosant pathologie de mots abscons ou de non-dits. Tout ça pour nous dire imperturbable, votre maladie est incurable, mais très cher, nous sommes bons, nous l'appellerons par votre nom. La chance est un art mineur, la vanité d'un art majeur. Je ne vous citerai pas de nom, ce serait dangereux et bien trop long. Combien d'idiots j'en fais partie, qui croient encore au paradis, à la paix interplanétaire, un monde où l'on serait tous frères. Mais manque de bol, y a plusieurs dieux qui se disputent le haut des cieux, et leur roupie ne cesse nuit et jour de s'entretuer par amour. La chanson est un art mineur, l'extrémité d'un art majeur. Je ne vous citerai pas de nom, ce serait dangereux et bien trop long. Et quand on tourne le bouton de notre chère télévision, c'est pour savourer à coup sûr un moment de haute culture. Or nous savons fort bien, vous et moi, que le ridicule ne tue pas. Nos vedettes télévisées seraient des espèces menacées. La chanson est un art mineur, la nullitude un art majeur. Je ne vous citerai pas de nom, ce serait dangereux et bien trop long. Non, ne voyons pas tout en noir, il reste encore un peu d'espoir. Pour mettre les peuples à l'unisson, le sport ça c'est la solution. Oui, je crois en un futur meilleur, quand j'entends ces supporters en chœur, je me dis quand ils hurlent de joie, le monde est sur la bonne voie. La chanson est un art mineur, la connerie un art majeur. Je ne vous citerai pas de nom, ce serait dangereux et bien trop long. La chanson est un art mineur, la connerie un art majeur. Je ne vous citerai pas de nom, ce serait dangereux et bien trop long. La chanson
L'art majeur, une des chansons extraites de ce CD qui vient de sortir et qui s'intitule Le Bourdon, un CD de celui que j'avais la grande joie de recevoir ce matin, Didier Bourdon.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et vous avez remarqué que Didier Bourdon avait un goût prononcé pour Anton von Webern. Eh bien moi, ça fait des semaines que je voulais vous parler d'un compositeur contemporain que j'adore. Il s'appelle Dominique Probst et il vient de sortir une anthologie de quelques-unes de ses pièces orchestrales sous le titre Nuée. Je précise que Dominique Probst, qui est né en 1954, a une façon très personnelle de mêler les influences de la musique d'avant-garde, du jazz et du rock. Et je vous propose d'écouter justement tout de suite une de ses œuvres, L'Origine du Monde, poème symphonique pour trio, rock et orchestre. On va écouter la seconde partie par l'Orchestre National de Lille et le trio Matzefak sous la direction de Paul Polivnik.
Thank you.
Et oui, une pièce qui s'appelle L'origine du monde, ça finit forcément par ce cri primal hein, d'un nouveau-né, en tout cas dans la pièce de Dominique Probst, extraite de ce très beau CD Nuée qui est paru chez Continuo Classique. Et d'ailleurs, ça m'a d'autant plus amusé que dans le même disque, Dominique justement rend hommage à ses propres parents, la charmante Gisèle Casatzu et son mari Lucien Pascal, qui avaient enregistré tous deux, avant de disparaître très âgés l'un et l'autre, et bien ce morceau, cette pièce, cette poésie, La mort des amants, par Charles Baudelaire.
Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères, écloses pour nous sous des cieux plus beaux.
Usant à l'envi leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.
Un soir, fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique comme un long sanglot tout chargé d'adieu.
Et plus tard, un ange entr'ouvrant les portes viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes.
Un extrait de la suite provençale de Darius Milhaud, dirigé, tiens, par Jean-Claude Casatzu, le frère aîné de Dominique Probst, et bien sûr le fils de Gisèle Casatzu et Lucien Pascal qu'on vient d'entendre dans ce beau poème de Charles Baudelaire. Évidemment, donc tout cela pour vous redire la parution du CD Nuée de Dominique Probst, dans lequel on trouve même aussi sa propre fille, la chanteuse Tatiana Probst, un disque en famille, mais surtout un très beau disque de musique d'aujourd'hui.
Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur.
Joyeux anniversaire,
acceptez.
Joyeux anniversaire.
Mais pour qui donc ce joyeux anniversaire ici joué et chanté par l'orchestre et les chœurs de Claude Vassory dans un vieux 45 tours? Eh bien, bon anniversaire à mon ami, mon excellent ami Jean-François Kahn, un fidèle de cette émission depuis le début. Il fête aujourd'hui ses 83 ans et j'aurai le plaisir de le recevoir la semaine prochaine à l'occasion de la parution de ses Mémoires d'outre-vie, un livre passionnant. Et en même temps, tiens, tout d'un coup, je me suis posé la question, là on vient d'entendre en fait le Happy Birthday dans sa version française, très célèbre aujourd'hui, mais quand j'étais petit, c'était un autre anniversaire qu'on chantait, et j'ai retrouvé justement par la voix d'André Claveau, d'ailleurs dont Jean-François Kahn parle à plusieurs reprises dans son livre où il est aussi question de chansons. Voilà, ça c'était notre anniversaire à l'époque.
Bon anniversaire, nos voeux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur. Bon anniversaire!
Et voilà, je me demande si les jeunes générations le connaissent toujours, ce bon anniversaire français, lui, entièrement, 100%, voilà, ici, par André Claveau. On retrouve donc la semaine prochaine Jean-François Kahn, mais on va terminer cette émission avec Rossini, le ballet extrait du Siège de Corinthe. Thank you. Ah oui, Rossini, ça vous met en forme pour la journée ici. Un air de danse du siège de Corinthe par l'orchestre de Monte Carlo sous la direction d'Antonio de Almeida. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutert préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Emmanuel Morse d'Incan, Alex Billard et U2 Diego Aclopès, réalisation Christine Amado. On se retrouve donc bien sûr la semaine prochaine avec Jean-François Cade, mais sans plus attendre, vous avez rendez-vous sur France Musique avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.